Hier, c'était le début de la série à la télévision sur Crave des Canadiens de Montréal qui s'appelle La Reconstruction. Ils ont montré épisode numéro 1 puis épisode numéro 2.
T'as vraiment été collaborateur régulier, là. On t'entend très, très souvent dans cette série-là.
Oui, non, mais moi, je savais pas que j'étais collaborateur régulier. Ils m'ont demandé d'aller à deux reprises.
OK.
Pour donner mes opinions sur certaines choses. Écoute, mais effectivement,
on voit partout.
Mais j'ai regardé le premier épisode avec les gens des Canadiens la semaine passée. On a eu droit à ça. J'étais invité. Mm-hmm. J'ai pas vu la deuxième encore. Honnêtement, hier, quand c'est joué, je l'ai pas vu hier. J'ai l'intention de regarder peut-être un peu plus tard aujourd'hui.
J'en ai regardé 15 minutes du deuxième.
Ce que j'ai vu, par exemple, c'est un extrait assez incroyable entre un abonné de saison puis Jeff Molson.
Ah oui.
On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Puis aussi, un peu plus tard dans l'émission, on va parler de la fameuse situation entre Jeremy Swayman, le gardien de but des Bruins de Boston, et évidemment le directeur général Don Sweeney, parce que ils sont pas proches de l'entente, là, mais pas du tout. Des fois, tu sais, il y a un million qui sépare les deux, mais plus souvent qu'autrement, t'as pas 4 millions par saison qui séparent les deux parties. On en est là. Mais on va parler des Canadiens avec Denis Gauthier d'RDS. Denis, comment vas-tu?
Bonjour Tony, ça va très bien, toi?
Ça va bien, merci Denis. Denis, des fois dans le camp d'entraînement, dans le camp pro, tu sais, il y a des choses où est-ce qu'on peut pas, on devrait peut-être pas en lire trop sur ça, et il y a d'autres choses que peut-être on devrait peut-être regarder ça pour dire oui, ça a du bon sens. Quand moi je vois que les trios sont Suzuki, Slav puis Caulfield, Doc avec Liney puis Newhook, Evans avec Gallagher puis Armia, puis Dvorak avec Anderson puis Joshua Roy, moi je me dis, mais c'est ça, ça c'est les trios de Martin Saint-Louis. T'en penses quoi, toi?
Je te dirais que ça se rapproche pas mal de ce que Martin a en vision pour commencer l'année. En tout cas, c'est l'image, parce qu'à chaque fois que la saison commence, on a un tableau dans le bureau des coachs, puis on a une formation fictive, on se dit là, les projections sont telles. Donc évidemment, lui, c'est l'idée qu'il a en tête, il veut faire des tests tôt dans la saison. Moi, j'étais un peu surpris de voir un gars comme Joshua Roy sur un quatrième trio, mais en même temps, je comprends très bien le pourquoi. T'sais, Josh a eu une ascension fulgurante dans les rangs juniors, est arrivé dans l'Américaine, a eu du succès, a joué à Montréal l'an passé quelques matchs. Arrive ici, on veut pas lui faire sentir comme il est arrivé, comme s'il avait déjà son statut de joueur de la Ligue nationale. Donc, il devra mériter de monter dans l'alignement pour un quatrième trio, parce qu'on sait tous très bien que Joshua, à mes yeux, présentement, ne devrait pas être un joueur de quatrième trio par son talent, par son potentiel, par les outils qu'il a dans son coffre.
Mais est-ce que c'est vrai? Denis, excuse-moi d'interrompre. Oui. Est-ce que c'est vraiment un quatrième trio? T'es-tu convaincu que c'est un quatrième trio? Parce que moi, je suis pas convaincu que le troisième est meilleur que le quatrième à ce moment-là.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que pour moi, potentiellement, ça pourrait. Mais c'est le top 6 est interchangeable dans certains de ces éléments. Même chose pour le bottom 6. Les joueurs de troisième, quatrième trio, on pourrait faire une rotation. Evans et Dvorak, qui est le troisième, qui est le quatrième. Je pense qu'on essaie peut-être d'amener Evans à avoir un peu plus de responsabilité. En tout cas, on fait le test, sinon on verra. Pour moi, ça, c'est juste un idéal. On essaie des choses, mais il faut pas s'attendre à ce qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. On va faire d'autres joueurs, même sur un deuxième trio. Newhook va probablement laisser sa place à quelqu'un d'autre durant le camp d'entraînement. Ou peut-être qu'on va juste les laisser donner une chance de créer une chimie rapidement. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est que il y a moins de joueurs au camp d'entraînement, il n'y a pas de joueurs, si je ne me trompe pas, qui ont été repêchés cet été, contrairement à l'année passée, où on voulait leur donner peut-être une expérience de faire le vrai camp, de jouer un match hors concours. Mais là, cette année, c'est différent. On a moins de joueurs au camp, on veut tout de suite aller un peu plus dans les tests et expérimenter, voir s'il y a de la chimie entre certains joueurs. Et ça, pour moi, j'apprécie ça aussi, parce que le Canadien est prêt à prendre un prochain step dans son cycle, dans son développement, pour se rapprocher éventuellement d'une place au ciel.
Toi, qu'est-ce que tu penses du camp d'entraînement, personnellement, comme tes impressions quand tu étais joueur, puis tes impressions maintenant que tu es comme à la tête du club de hockey, les Voltigeurs de Drummondville, évidemment, que tu supervises le tout. Tu sais, les camps d'entraînement, pour toi, ça dit quoi comme joueur, puis ça dit quoi comme dirigeant?
Ben, une grande différence. Le jeune joueur qui rentre dans un camp d'entraînement, dans l'époque où moi je jouais, et peut-être même un peu avant, c'est que tu étais entouré d'une gang de vieux. Les joueurs de la ligue était beaucoup plus vieille. Le jeune joueur qui rentre aujourd'hui est entouré probablement de 60% de gars qui a 26, 27 ans et moins dans le camp d'entraînement. Fait que les choses se font différemment aujourd'hui. C'est 21 jours de camp, contrairement à souvent 28, 29, 30 dans le temps où moi je jouais. Et on avait 8 matchs sur le concours quand j'étais à Calgary contre, on avait 6 contre les Oilers d'Edmonton, tout simplement. Ça se tapait dessus. Aujourd'hui, c'est plus ça. Fait 21 jours de te prouver. Les jeunes qui rentrent ont souvent, non seulement, seulement une semaine, un match hors concours, puis te donne une chance d'en gagner un deuxième, puis de gagner du temps au fil du temps, au fil du camp d'entraînement. Mais je te dirais que les joueurs aujourd'hui sont préparés. Il n'y a pas de temps à perdre. Puis c'est la bonne l'expression en anglais, le hit the ground running. Là, c'est ouais. Aussitôt que le camp débute, tu dois être nécessairement prêt à débuter. C'est pas une période de temps où graduellement tu peux avoir une remise en forme et trouver ton tempo. Les gars sont déjà sur la glace depuis un mois et demi pour se préparer à ce jour 1 du camp. Donc pour moi, ça, il y a une intensité qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus rapidement au cours des camps d'entraînement. Et ça fait que les courses pour les postes dans chacune des équipes, pour moi, deviennent intéressantes beaucoup plus rapidement également.
59 joueurs au camp d'entraînement pour le Canadien, 35 attaquants, 17 défenseurs, 7 gardiens but. Le tout a débuté hier avec des tests physiques, des tests médicaux. Aujourd'hui, ils sont sur la glace. Il va y avoir un genre de match intra-équipe qui va jouer, qui va commencer d'ici environ une dizaine de minutes. Là, il y a des matchs pré-saison le 23 septembre. Le 24 septembre, le 26, le 28 et le 1er octobre et le 5 octobre. Des matchs pré-saison. Entre le 2 et le 4 octobre, l'équipe va aller à Mont-Tremblant. Évidemment, Denis, on appelle ça comme du genre de team bonding là, pour sortir à l'extérieur de la ville. Est-ce que tu en as fait beaucoup de ça? Puis est-ce que ça rapporte les dividendes qu'on en parle?
Je trouve ça très intéressant. J'en ai fait à quelques occasions. J'ai fait lorsque je jouais à Calgary, souvent on allait faire une petite retraite à Banff, on allait jouer au golf, on allait pratiquer dans un endroit qui était plus privé, plus discret, je te dirais. Ça, c'était très intéressant. J'aime ça. Mais tu sais, le Canadien semble déjà une équipe qui est très unie, qui est très proche. Tes joueurs s'apprécient, aiment collaborer ensemble, aiment jouer ensemble. Donc déjà là, tu as une longueur d'avance dans ces situations-là, mais c'est souvent une belle activité d'intégration pour les quelques nouveaux qui vont entrer dans ton alignement, mais aussi juste changer le mal de place. Tu sais, ton camp d'entraînement dure 21 jours au total, mais lorsque tu auras fait 10 jours, 12 jours, 14 jours, la routine s'installe rapidement, l'intensité... vient s'emparer un peu de ta forme physique, d'une fatigue qui s'installe. Fait que juste avoir un petit changement de place, passer du temps à pratiquer, mais peut-être aller jouer une ronde de golf, aller faire un souper en ville dans un autre différent, peut-être même, je dis n'importe quoi, mais faire une marche, prendre une randonnée, aller à la montagne à Tremblant, ça peut être quelque chose que certains gars vont apprécier. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre d'événement, puis c'est un investissement pour ton club, pour être sûr que le début de saison commence bien, puis l'harmonie règne, puis c'est une occasion aussi pour les entraîneurs de faire des mises au point. Souvent, c'est juste un petit rappel de ce qui s'est passé au camp d'entraînement, des choses qu'ils ont aimées, qu'ils n'ont pas aimées. Aussi, c'est une prévision de ce qui s'en vient début de saison, des attentes qu'on va avoir, mais on veut mettre des points, évidemment, sur les i pour dans ces moments-là, peut-être quelques réunions, faire du vidéo, parce que c'est pas nécessairement juste on laisse les gars aller s'amuser pendant 3 jours ou 2 jours, puis on se réveille à se terminer. Ça reste que t'es dans un camp d'entraînement encore. On va faire du hockey aussi, mais dans un environnement différent où on peut peut-être être un peu plus relax lorsque l'équipe sera finalisée.
Le Canadien a annoncé à 9h54 ce matin que Caden Gooley s'est fait enlever son appendice hier et sera réévalué dans une semaine. Est-ce que tu as déjà eu ça?
Non, moi j'ai jamais eu cette blessure. Puis pour être franc, j'ai pas eu ce genre de coéquipier qui a eu ce genre de blessure-là. Donc je peux pas dire que je suis très familier avec ça. Je sais qu'il y en a qui l'ont eu puis qui ont eu des guérisons très longues. Il y en a qui ont eu des guérisons très miraculeuses. J'imagine que c'est du cas par cas. Mais si j'ai juste une chose à dire dans le cas de Goulet, dans cette situation-là, c'est que je suis content que ça arrive aujourd'hui, que ça arrive dans le milieu de saison. On s'en débarrasse là. Si les choses, les procédures vont bien puis qu'on réévalue la semaine prochaine puis on dit que c'est une question de semaine, peut-être prêt au début du camp, peut-être au début de la saison, c'est-à-dire ou très tôt dans la saison. Pour moi, c'est important de te débarrasser de ça le plus rapidement possible.
Tu sais, c'est une grosse différence entre être quelqu'un qui joue au hockey, un joueur de hockey. Mm-hmm. Et je pense que les gars, ils savent la définition d'un joueur de hockey. Une grosse différence. Mais je pense que plus que tu as de joueurs de hockey, plus qu'il gradue d'être juste un joueur, une personne qui est bon, qui a du talent, plus qu'il gradue en étant un joueur de hockey, mais là, quand t'en as beaucoup d'eux autres, là, t'es souvent dans une bonne place. Puis ça fait 2 ans qu'on est dans le processus de faire des joueurs de hockey. C'est un gars qui joue la game, tu sais. Pas juste sa game, il joue la game.
Là, voilà, il parlait de...
Ben, il parlait tout simplement de... Qu'est-ce qu'il s'attendait de ses joueurs et comment les développer?
Non, mais il a dit à la fin, c'est un gars qui joue la game. Pas juste sa game, mais joue la game.
Il veut décrire un joueur de hockey.
Ah, OK.
Un joueur de hockey, c'est quelqu'un qui joue pas juste la game, il joue sa game.
Excellent. Il est 11h14. Vous avez écouté Martin Saint-Louis hier avec des membres des médias. Je parle avec Denis Gauthier d'RDS. Denis, Martin Saint-Louis, moi, je trouve ça fascinant de l'entendre parler, honnêtement. C'est un gars que je trouve captivant. Moi, je pourrais entendre Martin. Là, moi, j'aimerais ça... Un jour, là, t'sais, aller à un hockey seminar pendant une semaine pour écouter Martin Saint-Louis. Là. Mais est-ce que à la fin, il est en train de dire on veut en faire des joueurs complets, point Lenin? C'est-tu ça qu'il veut dire?
Ça ressemble beaucoup à ça. T'sais, j'adore l'expression parce qu'on l'utilise dans toutes les équipes. Bon, depuis 16 ans, peut-être, toutes les années, on revient. On évalue des jeunes à Drummondville, puis je regarde les joueurs du Canadien qui est à l'entraînement, puis on se dit, et lui, tu sais, des fois, il y a des saisons, pas des saisons, mais des moments plus difficiles, mais on la regarde jouer, puis dit, lui, c'est un joueur de hockey. Pourquoi? Mais tu sais, c'est que ça devient des joueurs qui n'ont pas juste du talent, pas juste qui ont un bon tir, qui font pas juste marquer des buts, qui sont pas juste des bons patineurs, qui font pas juste défendre. Ça devient des joueurs qui comprennent le jeu, comprennent la game. Ils jouent un match de situation selon le cadran. Selon ton adversaire, selon la situation dans laquelle tu es, selon la période, selon contre qui tu joues dans cette présence-là sur la patinoire, selon si tu es sur la route ou à la maison. Il y a plein de facteurs qui viennent à un certain moment donné que les joueurs comprennent comment jouer une game qui devient efficace et fiable, qu'un entraîneur peut te mettre sur la patinoire, puis il n'y a jamais de doute que si aujourd'hui, tu n'as pas t'as pas ton jeu A, là. T'as pas ton meilleur atout, t'as pas ta game A là, qui te définit, qui définit ton identité, mais t'as quand même un backup. T'as une game B pour dire que même si j'ai pas mon meilleur atout aujourd'hui, je suis capable quand même de contribuer défensivement. Ça revient aussi à beaucoup de détails. Les entraîneurs aujourd'hui, surtout dans la façon dont le hockey joue, c'était plus autant de mettre des gars en échec puis d'envoyer dans la 10e rangée pour intimider, pour avoir un aspect très physique. C'est beaucoup, on parle beaucoup de bâton sur la rondelle, tu sais, pour aller, commence le bâton sur la rondelle, finit dans le corps après. On revient, lorsqu'on parle de repli défensif, c'est l'expression en anglais, c'est back on top. Ça veut dire que tu reviens sur le côté défensif quand ton repli défensif, t'enlèves la rondelle, mais tu te remets d'une position défensive entre le joueur et ton gardien de but. Ça vient parler de hockey sense, de positionner la rondelle dans des endroits plus favorables l'été que quand que toi tu l'as. C'est quand j'ai plus la rondelle, là, est-ce qu'elle est dans une meilleure position une fois que je l'ai plus? Est-ce que je l'ai mis, je l'ai passé à un partenaire? Est-ce que je l'ai positionné pour que quelqu'un la redonne? Est-ce que je l'ai mis dans le fond de territoire? Je vais pas créer de revirement. C'est toutes ces choses-là qui englobent dire, je vais le mettre en guillemets, qui vont dire que c'est un joueur de hockey. Parce que c'est la compréhension du match et d'amener tous les petits détails qui sont importants, que c'est pas juste... Puis Martin, il était très bon. Pour l'imager, là, il a mentionné un gars comme Cole Caulfield. À ce début, avec les Canadiens, c'est un marqueur de but lancé foudroyant. On a parlé beaucoup des carences dans le jeu de Cole Caulfield, son jeu défensif qui faisait défaut puis qui remettait le Canadien dans certaines situations difficiles. Mais il a aussi rappelé que l'année passée, il marquait moins, mais il a pas manqué de temps de glace. Il était là pareil parce que Cole Caulfield a compris à jouer la game, continue de développer cette facette-là. Fait que là, Martin, il n'a plus autant peur de le mettre dans des situations défensives, de le mettre contre des meilleurs joueurs et dans toutes les fins de période. Pourquoi? Parce que, il est devenu un meilleur joueur de hockey. Il reste encore de l'espace à développer et à s'améliorer là-dessus, mais ça s'en vient. Mais ça, en gros, moi, c'est ça que je te dis. C'est un terme de hockey pour un coach qui est très fascinant, qui semble très vague. Mais quand tu vois un joueur de hockey, on se dit, on comprend tout de suite.
C'est là où est-ce que je voulais aller, parce qu'il a parlé de Caulfield, il a dit, il a toujours été talentueux, il a toujours marqué des buts. L'an passé, il a reçu beaucoup de critiques parce qu'il n'a pas marqué autant. Mais il a fait de grands pas vers qu'est-ce que c'est un joueur de hockey. Son jeu était plus complet, il était impliqué physiquement, Il gagnait des batailles. Il n'était pas juste en périmètre pour avoir ses touches. Ça, c'est quelque chose, parce que sans le dire, Martin Saint-Louis vient de dire qu'il y a un an pour lui, Cole Caulfield, c'est un joueur de périmètre.
Mm-hmm.
Point à la ligne. T'sais, est-ce que, qu'est-ce qu'il a fait avec Caulfield? Selon toi, est-ce que tous les joueurs peuvent changer? Je sais que ça doit venir du joueur. Parce que s'il n'y a pas la volonté du joueur, ça n'arrivera pas. Mais penses-tu qu'il va avoir le même mandat, il va vouloir faire la même chose avec Lainey?
Moi, je pense qu'il va vouloir l'aider, c'est sûr. Tous les coachs veulent aider les joueurs qui sont en place. Ils vont vouloir l'améliorer. Ce que tu veux pas, c'est le transformer puis le changer. Tu sais, Patrick Lainey, on sait qu'il arrive ici avec un bagage d'outils qui sont extraordinaires, qui sont élites quand on parle de tirer la rondelle puis de marquer des buts. Quand il est à son meilleur, il était dans la meilleure disposition. Mais on fera jamais, il voudra jamais le changer pour faire de lui un joueur sur 200 pieds, un joueur défensif qu'on veut simplement jouer en infériorité numérique. On se comprend. Fait qu'on veut maximiser ses postes et on veut améliorer ses faiblesses pour pas qu'il y ait nécessairement de grandes failles à son jeu pour pas avoir l'opportunité de le mettre sur la glace. Parce qu'en réalité, c'est ça. Si le joueur comprend et fait ça, c'est que c'est de l'argent dans les poches pour lui, parce que c'est des minutes de plus que l'entraîneur n'aura pas peur de lui donner. C'est peut-être un 2, un 3, un 4 minutes de plus à chaque partie qui va faire en sorte que, parce que je joue ma game comme pro. Puis tu sais, la différence entre un joueur qui joue hockey et un joueur de hockey, là, dans les termes de Martin puis dans les termes des coachs, c'est regarde dans les ligues mineures au cours des années, là, dans les américaines, combien de joueurs de talent qui ont été des joueurs qui n'ont fait que leur carrière dans la ligne américaine, des Robbie Shrimp de ce monde qui ont des centaines de points dans la ligne américaine, puis qui ont bourré de talents, qui sont bien plus talentueux que bien des gars qui ont joué dans la ligne nationale. Puis je te dirais probablement plus que 70% des gars qui étaient dans la ligne nationale. Mais pourquoi ces gars-là n'ont jamais joué au hockey dans la ligne nationale, n'ont jamais fait carrière dans la ligne nationale? Ben c'est parce que c'est ça, c'est pas des joueurs de hockey. Ouais. Parce que c'est des joueurs de talent ouais, pur, mais de compréhension, puis d'aider ton équipe à gagner et à faire avancer ton club, ça marche pas. Ils sont pas capables. C'est des joueurs qui sont un peu plus centrés sur eux-mêmes.
Oui, parce que les entraîneurs pensent que des joueurs de même, ils peuvent être sur la glace pour un but marqué par leur équipe, par match, mais peut-être être sur la glace pour deux ou trois contre.
100%. C'est exactement ça. Tu demandes qu'un entraîneur, il pense. T'sais, même si le jeu est axé sur l'offensive aujourd'hui, ça reste qu'en bout de ligne, je te l'ai dit il y a deux semaines, c'est you can't outscore bad defense. Tu peux pas marquer plus de buts que t'es pourri défensivement. Ça se fait pas. Tout le monde est bon défensivement dans la ligue, juste à différents niveaux, mais tout le monde est capable de contribuer d'une certaine façon.
Denis, excellent. On regarde qu'est-ce qui va se passer, évidemment, au match intégré pour aujourd'hui qui, là, il a commencé il y a environ 5 minutes de ça. Puis on va s'en parler. On va se parler dans quelques jours. Merci, Denis.
Bonne journée, messieurs. Bye bye.
Le voilà. Denis Gauthier d'RDS, collaborateur à tous les mardis et tous les jeudis.